Sébastien Paour, bonsoir.
Bonsoir à tous. Terminer les arrestations policières par étranglement. Christophe Castaner parle d'une méthode dangereuse qui ne sera plus enseignée. Première annonce pour répondre aux manifestations contre les violences des forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur promet aussi tolérance zéro et suspension en cas de soupçon de racisme. Vous l'entendrez. Nous sommes aussi à Houston dès le début du journal. Pour le début, des cérémonies d'hommage à George Floyd. Et puis à New York, les démocrates veulent faire voter un texte pour réformer les pratiques policières aux États-Unis. Au sommaire également ce soir, le pétrolier BP qui dégraisse 15% de ses effectifs, le début du démontage de l'échafaudage de Notre-Dame de Paris, les eaux des plages d'Europe de plus en plus propres. Et au téléphone sonne, Fabienne.
Eh ben, est-ce que l'épidémie est finie? Est-ce que le virus ne circule plus? Les scientifiques le disent de plus en plus. Les chiffres, en tout cas, ne viennent pas les contredire. Mais restons vigilants. On entendra le ministre de la Santé dans un instant qui lui pense qu'il ne faut pas accélérer les déconfinements engagés. Dites-nous ce que vous en pensez au 01 45 24 7000.
France Inter.
Comment répondre aux manifestations contre le racisme et les violences policières? Le gouvernement veut agir vite face aux rassemblements qui se multiplient. La mort de George Floyd il y a deux semaines aux États-Unis, le cas Adama Traoré qui ressurgit ici, les messages racistes de policiers sur les boucles Facebook ou WhatsApp. 23 000 personnes encore dans la rue samedi à Paris, plus de 2 000 cet après-midi à Nantes, d'autres prévues demain partout dans le pays. Emmanuel Macron pousse et c'est le ministre de l'Intérieur qui se retrouve donc à parler le premier. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Avec la volonté d'apaiser et de rapprocher population et forces de l'ordre.
Oui, le ministre de l'Intérieur a parlé de bâtir la police de la confiance. Il a longuement parlé notamment des soupçons de racisme qui pèsent sur certains policiers. « Je refuse de dire, dit Christophe Castaner, que l'institution est raciste. Mais oui, il y a des policiers racistes. »
Je veux que chacun sache que quand on porte l'uniforme bleu de la loi, on ne se situe jamais au-dessus d'elle. On se doit, au contraire, plus encore que d'autres, d'être exemplaire. Alors, je veux une tolérance zéro contre le racisme chez les forces de l'ordre.
Et cette tolérance zéro, elle se manifestera par le fait de suspendre et de sanctionner tous les fonctionnaires qui tiendraient des propos racistes. Le ministre de l'Intérieur a également parlé des groupes Facebook dont nous avons parlé ici sur France Inter, des groupes Facebook où certains fonctionnaires tiennent également des propos racistes. Et là aussi, le ministre de l'Intérieur les a clairement condamnés.
Il est aussi revenu sur deux affaires récentes qui sont beaucoup évoquées dans les rassemblements.
D'abord, l'affaire Cédric Chou via ce livreur mort à Paris après une interpellation par plaquage ventral. À cette époque, Christophe Castaner avait reçu la famille du livreur. Eh bien, le ministre de l'Intérieur a annoncé aujourd'hui que cette technique serait désormais interdite. Elle ne serait plus enseignée en école de police. C'est ce qu'on appelle la technique d'étranglement. Donc, c'est fini. Elle ne sera plus utilisée. Et puis, autre affaire emblématique, l'affaire Gabriel, cet adolescent de 14 ans qui a été gravement blessé pendant une interpellation, a bondi fin mai. Là aussi, le ministre a tenu à évoquer cette affaire.
Je suis moi-même troublé par les témoignages que j'entends. La lumière sera faite et les déclarations des policiers sont en ce moment confrontées aux expertises médicales. C'est à la justice et à elle seule d'établir les faits et les responsabilités. Car je crois en la justice des tribunaux, en la justice des lois, pas en celle de Twitter ou des commentaires instantanés.
Voilà, un ministre funambule qui a dû d'un côté se montrer du côté des forces de l'ordre et de l'autre de la population. Les forces de l'ordre qui attendent maintenant de voir comment tout ceci va se concrétiser sur le terrain.
Voilà donc pour ce premier point. Place Beauvau, merci Ariane Grissel. D'autres ministres sont consultés. Édouard Philippe doit prendre la parole demain. Bonsoir Yael Gauze.
Bonsoir Sébastien.
Bref, l'exécutif accélère Yael.
Oui, mais sans qu'Emmanuel Macron ne monte en première ligne. Toujours pas le moindre son, mais des consignes fermes passées à Matignon et Beauvau pour réagir au malaise. Ces choses faites, on l'a entendu côté Castaner. Le ministre a listé ses préconisations déontologiques. Deuxième niveau de réponse, Matignon, ça c'est demain matin. C'est Édouard Philippe, on vient de l'apprendre, qui se rendra dans une ville chère au cœur de Manuel Valls, Évry, dans l'Essonne. Visite au commissariat et échange avec des jeunes. Discours d'équilibre, nous promettons, pas d'amalgame avec les USA, mais dénoncer la persistance, au-delà de la police, de dérives racistes dans la société française. Et puis d'autres ministres ont été sommés de réagir, notamment Marlène Schiappa, en charge de la lutte contre les discriminations. Souvenez-vous du name and shame pour dénoncer les entreprises qui discriminent à l'embauche. 7 étaient dans le collimateur du gouvernement, dont Air France et Renault. Eh bien, ces 7 entreprises vont bénéficier d'une formation RH pour corriger le tir. Et si elles refusent d'entrer dans le programme du gouvernement, elles seront de nouveau dénoncées publiquement. Enfin, la LICRA avait proposé au gouvernement de se joindre au rassemblement organisé demain en hommage à George Floyd. Fin de non-recevoir, chacun à sa place. Celle du gouvernement, explique Matignon, n'est pas de manifester.
Édouard Philippe, donc, demain matin, chez Manuel Valls à Évry. Merci, Yael Gauz. Aux États-Unis, c'est le début des cérémonies d'hommage à George Floyd, 2 semaines tout juste après sa mort, sous le genou d'un policier blanc, qui d'ailleurs doit comparaître ce soir. 2 images. D'abord, ces élus démocrates à genoux, eux aussi, pendant 8 minutes 46, le temps qu'a duré le calvaire de George Floyd. C'était au Congrès à Washington, dont la présidente Nancy Pelosi, elle faisait partie de ces démocrates. Tout cela dans le hall de l'émancipation, qui doit son nom aux esclaves qui ont construit le lieu au XVIIIe siècle. Et puis l'autre image, c'est à Houston, avant l'enterrement demain. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Sébastien.
Il y a déjà du monde, Grégory. Des anonymes qui vont défiler devant le cercueil de Floyd.
Oui, ils sont déjà plusieurs centaines à patienter sous un soleil de plomb pour le début, à proprement parler, des cérémonies ici à Houston, Texas, la ville natale de George Floyd. Sa dépouille va être toute la soirée et toute l'après-midi exposée au public et la file d'attente continue de grossir dans une ambiance très recueillie. Il y a ici notamment des gens de son quartier, le Third Ward, au sud de Houston, quartier afro-américain, quartier très défavorisé. Et les gens ont été terrifiés quand ils ont vu la vidéo de la mort de Floyd à Minneapolis. On ne peut pas laisser passer. C'est cela, me disait tout à l'heure Sheila Masters, c'est une amie de la famille.
Floyd était comme un fils pour moi, je l'ai vu grandir, adolescent, vous savez, l'école, le football, le lycée. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était une inspiration pour le quartier, pour les jeunes de ce ghetto. Vous savez quoi? Je prie chaque jour depuis que c'est arrivé. Je prie afin que tout le monde continue à se battre pour Floyd. On va l'inhumer dans sa tombe demain, mais ça, c'est pas terminé, ce n'est que le début. Il faut aller jusqu'à la Maison Blanche. Il faut que nous, on se sente en sécurité quand la police arrive. Mes enfants, vos enfants, ils ne doivent pas avoir peur d'être arrêtés par des policiers au milieu de la nuit, ou même en plein jour. On ne veut plus cette peur en Amérique.
Cet après-midi, l'ancien vice-président d'Obama et candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, doit venir ici à Houston pour rencontrer la famille de Floyd et présenter ses condoléances. Et puis demain, inhumation de George Floyd aux côtés de sa mère disparue il y a 2 ans. Ce sera une cérémonie privée et familiale. Un vieil homme enfin témoigne ce qui lui est arrivé. A déjà marqué l'histoire, ça a déjà changé un peu les choses. Ici, la communauté afro-américaine de Houston a vu les manifestations, a entendu les manifestations à travers le pays et leur retentissement mondial, et l'on prie avec ferveur pour que la mort de George Floyd n'ait pas été un sacrifice pour rien.
Grégory Phillips en direct de Houston à Minneapolis, la ville où il a été tué. La mairie a décidé de réformer sa police de fond en comble. Elle ne veut plus d'une police structurellement raciste et elle cherche à construire un nouveau modèle de sécurité publique avec la population. Et pendant ce temps, bonsoir Loïc Loury.
Et bonsoir Sébastien.
Les démocrates, Loïc, présentent eux aussi au Congrès à Washington une série de mesures pour réformer la police.
Oui, absolument. Nancy Pelosi, leur chef de file à la Chambre, a présenté ce matin ce Justice in Policing Act. C'est un paquet de lois, en fait, au spectre très large. Parmi les mesures qu'il contient, il y a la fin des prises d'étranglement lors des arrestations, la création également d'une base de données fédérale sur l'usage de la force par les polices locales, et puis un programme d'entraînement contre les discriminations raciales. Mais tout cela, Sébastien, pose plusieurs questions. D'abord, la législation en matière de maintien de l'ordre dépend en très grande partie des villes et des comtés. Il y a 18 000 agences de police différentes aux États-Unis. Quel financement ensuite pour ces mesures? Le texte n'en parle pas. Et puis, enfin encore, faut-il convaincre les républicains au Sénat de voter le texte, puis Donald Trump de le signer? Bref, on retiendra peut-être surtout cette image que vous évoquiez, une vingtaine de démocrates qui ont observé 8 minutes 46 de silence, un genou à terre. C'est le temps que George Floyd aura passé au sol, le genou d'un policier sur la nuque.
Image tout à l'heure, oui, au Congrès à Washington. Merci Loïc Loury. Et puis à Bristol, en Angleterre, où avait lieu hier l'une des manifestations contre les violences policières, la statue d'un marchand d'esclaves du 18e a été déboulonnée et elle ne devrait pas être réinstallée, mais être mise au musée.
Le confinement a évité 3 millions de morts en Europe.
C'est une étude de l'Imperial College de Londres dans 11 pays européens, dont la France, au moment où le président du Conseil scientifique ici en France, Jean-François Delfrécy, estime qu'on peut alléger le protocole sanitaire à l'école d'ici la fin du mois, notamment pour les repas et les récréations. Il n'y a pas d'urgence, dit aujourd'hui de son côté le ministre de la Santé, Olivier Véran.
La situation s'est améliorée, continue de s'améliorer, mais nous montrons aussi qu'il est trop tôt pour relâcher en aucune manière notre vigilance, celle du système sanitaire, mais celle des Français également. Je comprends évidemment les demandes, les attentes, l'impatience qui peut s'exprimer d'avoir la capacité de reprendre notre vie normale au plus vite, mais sans laisser aucune chance au virus de repartir. C'est trop important, donc nous évaluons la situation au jour le jour, en fonction des indicateurs, en fonction aussi du niveau de saturation de notre système de santé, avec des gens, ici y compris des médecins, qui vous disent « attention quand même, on va avancer avec détermination, on va faire attention à tout ce qu'on fait, mais il faut permettre aux enfants de retrouver le chemin de l'école ».
Et signe de plus que la vie en général reprend, les aéroports d'école. Un avion a quitté Nantes ce matin. Premier vol depuis la fermeture de l'aéroport le 30 mars. Un Nantes-Lyon rempli aux trois quarts. Lyon-Saint-Exupéry de nouveau ouvert également. Trois vols aujourd'hui, une vingtaine par jour à court terme.
7 millions de cas, Sébastien, plus de 400 000 morts.
L'épidémie progresse en Amérique du Sud, mais l'heure est au déconfinement dans le reste du monde. La Russie rouvre partiellement ses frontières, notamment aux Russes, qui peuvent quitter le pays pour raisons de santé ou professionnelles. Et Moscou lève le confinement demain. L'Inde rouvre ses restaurants, lieux de culte et centres commerciaux. Restrictions levées aussi en Nouvelle-Zélande, qui ne compte plus aucun cas. Les bars et restos sont rouverts également en Belgique. Mais pendant que la vie reprend, des entreprises calent et la Banque mondiale estime que près de 100 millions de personnes pourraient tomber dans l'extrême pauvreté à cause de la pandémie. Dans le secteur pétrolier, après Chevron et Shell, c'est BP, Antoine Gignot, qui va supprimer 10 000 emplois d'ici la fin de l'année.
2000 au Royaume-Uni, 8000 dans le reste du monde. Au total, 15% des salariés de BP vont quitter l'entreprise avant la fin de l'année. Ce sont essentiellement des postes dans les bureaux du groupe qui disparaissent. La faute, explique le PDG, à la baisse des cours du pétrole. Le prix du baril de brut au plus fort de la crise a été divisé par 3, descendant au-dessous de 18 euros. Nous dépensons au jour le jour, dit-il, beaucoup plus d'argent que ce que nous gagnons. La dette du groupe a effectivement, au premier trimestre, augmenté de près de 5 milliards d'euros. Conséquence de ce ralentissement économique, les cadres supérieurs n'auront cette année pas d'augmentation et BP va diviser le nombre de postes d'encadrement par 2 en restructurant l'entreprise pour améliorer le bilan carbone et privilégier les énergies à faible émission. Les actionnaires, en revanche, vont continuer à toucher une rémunération. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Et quand on arrive au Royaume-Uni maintenant, il faut rester 14 jours en quarantaine depuis ce matin, que ce soit en train, en voiture, en avion ou en bateau, sauf si on arrive d'Irlande.
Notre-Dame sera sauvée si l'opération réussit.
C'est le délégué général de la Fondation Notre-Dame qui le dit, et l'opération en question, délicate et dangereuse, c'est le démontage de l'échafaudage installé avant l'incendie d'avril 2019. 200 tonnes de tubes métalliques au total, 40 000 pièces, la moitié à plus de 40 mètres de haut. Il devait servir à rénover la flèche qui a disparu depuis dans les flammes. Ils ont fondu en se soudant les uns aux autres. Rémi Brancato, les cordistes, commencent à découper tout cela.
Les nacelles s'activent déjà près de cet enchevêtrement de métal sous les yeux des amoureux de Notre-Dame comme Martine et Jacqueline.
C'est l'échafaudage qu'ils sont en train de démonter. C'est comme un puzzle, d'après ce que j'ai compris. C'est dangereux aussi.
Pour le moment, c'est encore château branlant, comme on dit.
Tout de même, l'édifice et l'échafaudage ont été consolidés, ceinturés avant ce démontage qui débute aujourd'hui.
Nous voyons deux grandes nacelles au niveau les plus hauts de la cathédrale.
Depuis son bureau rue du Cloître, Christophe Rousselot, le délégué général de la Fondation Notre-Dame, observe la grue de plus de 80 mètres qui va retirer les morceaux d'échafaudage.
Il y a beaucoup d'engins très sophistiqués, mais la réalité de l'intervention humaine est absolument décisive. Pour les cordistes, ces écureuils, ils descendent des cordes à plus de 40 mètres. Grâce aux cordistes, ces morceaux, ils vont être découpés avec des six sabres puisque les tubes se sont comme agglomérés avec la pierre.
Un travail très délicat car même si l'édifice ne bouge pas ou peu, des capteurs ont été installés partout, le retrait de l'échafaudage pourrait le déstabiliser, comme le rappelle Ariel Veil, le maire du 4e arrondissement.
Tant qu'il ne sera pas démonté, il y a le risque qu'une pièce tombe sur un élément de structure de la cathédrale. Psychologiquement, je crois, l'idée qu'on passe enfin à la phase de reconstruction, il est un soulagement.
Cette reconstruction en tant que telle n'interviendra qu'après le démontage qui doit durer tout l'été.
Rémi Brancato, toujours à Paris, le début du procès de Lamine Diack et de son équipe, son ancienne équipe, l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme entre 1999 et 2015. Près de 3,5 millions d'euros reçus d'athlètes dopés en échange de leur participation aux compétitions, notamment aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Lamine Diack, qui a eu 87 ans hier, nie. Bonsoir Vincent Pellegrini.
Bonsoir Sébastien.
Mais la parole était cet après-midi à l'ex-monsieur antidopage de la Fédération et il n'a pas épargné son ancien patron.
En 2004, Gabriel Dolé est nommé par Lamine Diack médecin-chef de la Fédération internationale et directeur du département antidopage. C'est en 2011 que débute l'affaire qui lui vaut aujourd'hui de comparaître devant le tribunal correctionnel. À cette époque, rappelle-t-il, la Fédération internationale connaît de graves problèmes financiers. Des sponsors russes sont prêts à lui accorder de grosses sommes d'argent à condition que la Fédération accepte de ralentir des procédures concernant 23 athlètes russes fortement suspectés de dopage. Je l'ai accepté pour sauver l'institution, confie Gabriel Dolé, à la demande de Lamine Diack, qui s'était mis d'accord avec les Russes. La présidente du tribunal s'étonne de cette mansuétude, alors qu'à cette période-là, selon Gabriel Dolé lui-même, la Russie est montrée du doigt pour son laxisme dans la lutte contre le dopage. « Je le regrette aujourd'hui, j'étais pris dans un engrenage. » Et la présidente enchaîne. « En 2013, papa Massata Diack, le fils de Lamine, vous remet 50 000 euros en liquide, et vous l'acceptez, sans vous poser de questions. Je l'ai pris comme un bonus, car tout était réglé avec les Russes pour le sponsor. » Et les 140 000 euros versés un an plus tard par Lamine Diack en personne, une prime de licenciement, se justifie-t-il. À ce moment-là, je n'avais qu'une envie, quitter au plus vite la Fédération internationale.
Vincent Pellegrini, merci. En direct du Palais de Justice de Paris, le procès doit durer 10 jours. Le sport, côté terrain maintenant, et surtout côté tribune en l'occurrence. Bonsoir Jean-Pierre Blimeau.
Bonsoir Sébastien.
Jean-Pierre, la ministre des Sports réfléchit à un retour des supporters dans les stades en juillet.
Oui, c'est ce qui est ressorti d'une réunion aujourd'hui au ministère des Sports, une réunion de l'INS, l'Institut National du Sport. Ce que je souhaite, ce sont des matchs avec du public en juillet prochain. La ministre a réitéré sa volonté de faire revenir des spectateurs le plus vite possible dans les stades, mais elle veut aussi associer les organisateurs, les clubs, les supporters pour travailler sur un protocole sanitaire. Dans la même optique, les déplacements de supporters seront également envisagés avec, pour cet aspect, une collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Alors pour le moment, rien n'est encore décidé, mais le gouvernement semble donc ouvert à plusieurs scénarios. Ainsi, on parle beaucoup de la finale de la Coupe de France ou encore de la finale de la Coupe de la Ligue qui pourrait se dérouler en ouverture de la saison. Pour l'instant, la jauge reste à 5000 spectateurs, ce qui n'empêche pas de mener une réflexion si les conditions sanitaires le permettent, a indiqué également Roxana Maracineanu qui précise « Ma doctrine sera celle du ministère de la Santé et surtout la question n'est pas seulement celle de la présence des spectateurs dans les stades, mais la façon dont le public va converger vers les matchs. En revanche, la ministre n'a pas apporté de réponse sur la question de la présence du public pour des matchs amicaux en juillet et elle a précisé que l'expérimentation des tribunes dites dynamiques, c'est-à-dire debout, ne pourra pas se faire avant un retour à la vie normale.
Jean-Pierre Blimeau, on termine avec un coup d'œil à nos plages pour cet été, plages européennes, avant les pavillons bleus pour la France demain. 23 000 lieux passés au crible par l'Agence européenne de l'environnement et c'est en Albanie que les eaux sont les moins propres. Chypre est en tête de ce classement. Classement qui prend en compte les critères bactériologiques, c'est-à-dire les pollutions par les eaux usées ou le bétail, et où la France arrive 18e en dessous de la moyenne européenne. Alors ce n'est pas très glamour, mais ce n'est pas très grave, d'après Thierry Le Révérend, directeur général de l'association Terragir, qui décerne les pavillons bleus aux plages françaises. Il est avec Sandy Dauphin.
Le fait d'être 18e ne signifie pas qu'on a une qualité de l'eau qui est mauvaise. C'est un mauvais classement relatif. En fait, je dirais, la France a 3000 points de baignade qu'elle analyse, 33 000 prélèvements chaque année. En ce qui concerne Chypre, qui est le numéro 1, eh bien, vous avez seulement une centaine de points de baignade. Ils ont une complexité toute relative. Et je pense que Chypre dépend beaucoup plus fortement dans son économie du tourisme. Et je pense à des plages qui ont été gérées de façon plus attentive parce que c'était absolument vital. Nous, je pense qu'en France, en fait, on est le reflet de plages qui ne sont pas que des sites de tourisme, sont parfois à deux pas des villes, des ports et des fleuves. Et je pense que ça reflète aussi une diversité quelque part du paysage français. Et après, je ne suis pas alarmé par ces écarts parce qu'ils sont très faibles. Globalement, la France est un pays où il n'y a pas de problème sanitaire relatif à la qualité de l'eau de baignade.
Et pour plus de 400 plages françaises, drapeau bleu ou pas, réponse demain matin. Et puis, vous le savez, si vous écoutez Inter depuis ce matin, c'est Anne Poli qui obtient le prix du livre Inter pour « Avant que j'oublie », publié chez Verdier. Son livre était finaliste du Goncourt du premier roman. Il était aussi dans les sélections du Goncourt, du Fémina et du Médicis.
Et merci beaucoup Sébastien Paour pour le journal. On se retrouve évidemment demain. Dans un instant, c'est le téléphone sonne et la question tient. On la pose. Alors, est-ce que c'est fini? Est-ce que le virus est en train de disparaître? Avec des points d'interrogation, tout cela, évidemment. Mais les chiffres disent que la question se pose. Le ministre, lui, ne veut pas qu'on déconfine notre déconfinement, si je puis dire. On en parle ensemble dans une poignée de deux minutes au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel d'abord.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Un œil seulement, Jean-Pierre Rameau, parce que ça peut être dangereux, il y a des orages toujours prévus pour la journée de demain.
Oui, effectivement, Fabienne, ça va effectivement débuter en matinée du côté des Alpes-Maritimes. Et puis l'après-midi, ces orages vont s'étirer sur un axe Alpes-Maritimes, région lyonnaise, Ardennes, mais aussi entre les Pyrénées et le Massif central. Et attention, ces orages seront localement intenses, avec parfois de fortes précipitations. Localement, on prévoit des cumuls de pluie jusqu'à 50 mm, avec en prime des chutes de grêle, en particulier vers le sud-est du pays. Et puis dans les autres régions, le ciel sera partagé entre éclaircies et cumulus. Les éclaircies seront plus franches autour du golfe du Lion. En contrepartie, Mistral et Tramontane vont souffler jusqu'à 70 km par heure. Et puis par effet de brise, les côtes de la Manche profiteront d'un très bon ensoleillement. Côté température, pas de changement. Les maximales évolueront en général entre 17 et 20 degrés. Comptez 21-25 près de la Méditerranée.
Et merci beaucoup Jean-Pierre Rameau de Météo France.